RCF. Ce dimanche 2 mars, le Festival chrétien du pays Rocheforté vous propose une pièce de théâtre, Piaf, un cri vers Dieu. Une pièce qui a déjà été jouée dans de nombreuses villes et présentée à l'espace théâtral et culturel de Breuil-Magné. C'est à 15h. On vous en dira plus en fin d'émission pour réserver, etc. et les tarifs. Philippe Bocchi, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Vous êtes le président du festival et nous avons au téléphone également Pierre Fesquet qui est auteur de cette pièce. Bonjour Pierre.
Bonjour Dimitri. Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre.
Pierre, vous jouez également dans la pièce. Vous serez entouré d'une chanteuse, Yamina Abdous, et Thierry Bretonnet, qui est accordéoniste. Piaf, nous connaissons l'écorché vive qui vivait ses chansons. Elle les exprimait comme un cri, un caractère très tranché, une femme d'affaires aussi. On a pu voir ça très récemment dans le film consacré à Aznavour. On connaît d'elle ses amants, ses amours. Elle a commencé à chanter très jeune, mais elle n'a pas été que chanteuse. Car au début, eh bien, il fallait vivre. Ce que l'on sait peut-être moins d'elle, c'est que Piaf a très tôt tissé une relation quasi mystique avec, on peut même dire mystique d'ailleurs, avec Sainte Thérèse de Lisieux, suite à un gros problème de cécité. Piaf était profondément dévouée à Thérèse de Lisieux, à qui elle attribue sa guérison suite à un pèlerinage, c'est ça ?
Complètement. Oui, c'est une guérison. En 1919, la grand-mère qui habitait Bernay, la grand-mère d'Édith Piaf, qui était une dame, on pourrait dire, de petite vertu, parce qu'elle tenait une maison close, était une dame d'une grande foi. Et quand on lui confie la petite Édith, qui est âgée de 2 ans, eh bien, elle s'aperçoit qu'elle a les yeux purulents, c'est une double kératite, la cornée est détruite dans les 2 yeux, et donc on va partir en pèlerinage, on va prendre de la tombe de la petite Thérèse, qui à l'époque n'était pas sainte, on savait juste que cette religieuse était morte en odeur de sainteté, et donc on a prélevé de la terre qu'on a posée sur les yeux de l'enfant, et le jour de la Saint-Louis, en 1919, alors Louis c'est un nom important pour Édith parce que son père s'appelait Louis, elle aura des producteurs qui s'appelleront Louis, et bien le jour de la Saint-Louis, Édith descend avec, elle tient ce ruban qui cachait ses yeux à la main, et elle voit, et la première chose qu'elle verra, c'est un piano. Et il y a une véritable rencontre mystique, en effet, avec Thérèse de Lisieux, puisque Édith Piaf dira « Ma petite robe noire de scène, c'est comme le voile noir de Thérèse, et elle aura toujours en coulisses, plusieurs artistes me l'ont confirmé, une petite statue de Thérèse de l'Enfant Jésus, ou bien une affiche qu'elle mettra à cour ou à jardin, les deux parties de la scène qui sont importantes pour un comédien, eh bien, elle aura toujours besoin d'avoir Thérèse en lien sur scène. »
Ce que Édith Piaf considère comme étant un miracle, est-ce que ce miracle a été reconnu ?
Alors, ce miracle a été, oui, reconnu par des gens d'église qui ont approché Édith, puisque je raconte dans le spectacle, on va essayer de pas tout déflorer, mais elle a sauvé un prêtre du suicide, un prêtre avec qui elle gardera un lien toute sa vie, et on peut dire que ces autorités ecclésiastiques qui l'ont approché ont quand même reconnu, puisqu'elle a eu par exemple le don de l'odeur de rose. La Sainte Thérèse de Lisieux avait dit je ferai tomber une pluie de roses depuis le ciel. Mon père était très ami avec les compagnons de la chanson, et c'est un compagnon de la chanson qui me l'a confirmé. Un jour, il était aux côtés d'Édith. Édith était en prière et une odeur de rose a commencé à surgir dans la salle. Et alors, ils ont cru qu'elle avait cassé un flacon de parfum. Et Édith s'est énervée en disant « Bande de mécréants, quand on prie Thérèse, elle répond toujours par une pluie de roses. » Voilà. Donc, elle a eu quand même aussi cette faveur de la sainte.
Voilà, ça fait partie des choses que l'on ne sait pas forcément à propos d'Édith Piaf.
Alors, qui seront racontées dans le spectacle et qui sont racontées dans un livre, Piaf, un cri vers Dieu, que j'ai écrit en 2023 aux éditions Salvator et qui a donné lieu à ce spectacle.
On en parlera un petit peu plus tard, Pierre. Quel est le point de départ dans la pièce, quel est le point de départ ? C'est sa jeunesse et puis on la voit grandir, ou bien vous partez de sa vie d'adulte ?
Ah non, c'est sa jeunesse, c'est même sa naissance. On part de sa naissance, le 19 décembre 1915, qui est presque un miracle, puisque la légende voudrait que le trottoir de Belleville servit de berceau à l'enfant. Bon, elle est née à l'hôpital Tenon, mais il est vrai que sa mère perdait les os et que Edith est presque née dans la cape d'un agent de police. Donc voilà, cette vie hors du commun commence le 19 décembre 1915. Et puis après, on s'en va sur les routes avec son père, où là aussi, il se passe quelque chose d'incroyable. En 1925, à 10 ans, Edith apprend que Thérèse de Lisieux, sa protectrice, est canonisée. Et alors, elle veut absolument voir Thérèse dans sa chasse, dans sa belle cage de verre. Et alors, elle va faire une fugue dans le dos de son père, puisqu'elle accompagne son père, qui est un acrobate de rue. On est à Saint-Jean-de-Maurienne, et cet enfant va avoir l'idée ingénieuse de partir, de préparer comme un pilote prépare son plan de vol. Elle va prendre des bus, des trains, et elle se retrouve devant la chasse de Thérèse de Lisieux à 10 ans. C'est quand même incroyable.
La plupart des personnes connaissent la chanteuse sans finalement trop la connaître, c'est ce que je disais en préambule.
Oui.
Celle qu'elle était dans sa vie privée, on connaît beaucoup moins. On retient souvent ses exubérances et cette image de chanteuse très, très investie, très incarnée, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer ce côté plus intime, plus spirituel ?
Plus mystique, en fait. Mon père était très ami avec les Compagnons de la Chanson, ce fameux groupe que Piaf a lancé, qui a duré pendant, ils ont eu une carrière de 42 ans, avec elle ils ont créé la chanson Les Trois Cloches, dont le final est complètement thérésien, puisqu'il dit « Ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile l'éternité de l'amour ». Et je m'étais toujours dit qu'il y avait quelque chose de mystique, de spirituel chez Edith Piaf. Alors, il y avait eu un gros livre, Duc Vassal, à la fin des années 90, où il avait fait un parallèle entre la vie de Thérèse de Lisieux et la vie de Piaf. Et je me suis dit, mais voilà, il y a des choses peut-être encore à approfondir. Et donc, je me suis lancé dans une enquête. J'ai eu la chance de rencontrer Charles Dumont, qui était encore en vie à ce moment-là, qui m'a parlé du côté de la recherche de foi, du côté mystique. Lui, qui l'a vu de nombreuses fois sur scène, me disait, mais sa voix vient de sa foi, parce qu'elle communiait au plus haut degré des sentiments et du sacrifice avec son public. Et Piaf, qui a souvent été imité, à mon avis, n'a jamais été égalé, parce que la voix de Piaf, elle vient de sa foi. Je pense qu'on l'entend dans l'hymne à l'amour, mais on fera entendre au public d'autres titres connus et d'autres moins connus, comme par exemple une des chansons préférées d'Edith, c'était « Le ciel est fermé ». Dieu en a assez des bêtises des hommes, et alors il se met en grève. Et les prières vont monter au ciel, et elles vont aussi se manifester devant Dieu en disant « mais on va devenir plus fervente ». Alors c'est extraordinaire, parce que Edith, si vos auditeurs écoutent cette chanson, « Le ciel est fermé », eh bien Edith, comme c'était aussi une tragédienne, une comédienne, elle joue ces différentes prières qui deviennent plus ferventes, puis Dieu se laisse toucher et ouvre le ciel. Alors ça, c'est une des chansons préférées d'Edith, mais il y en avait d'autres. Il y avait Sœur Anne, Ne vois-tu rien venir, et puis on voit le Christ qui s'avance avec sa croix dans un rayon de lumière. Enfin, tout ça donne le frisson et c'est sublimé par la voix d'Edith.
Alors justement, à propos des chansons, parlez-nous de celle qui va interpréter, enfin qui interprète dans cette pièce Piaf, qui l'interprète non seulement physiquement, mais également avec sa voix, Yamina. Alors peut-être d'abord, Pierre Fesquet, le choix des chansons, on est sur son répertoire très connu, ou est-ce que vous avez, enfin vous l'avez dit plus ou moins, là, il y a quand même des chansons un peu inédites, ou en tout cas très peu connues.
On a quand même gardé les grands standards, parce que dans les grands standards, comme par exemple La vie en rose, eh bien je fais le lien avec cette pluie de roses, hein, ce phénomène mystique, Edith a eu la grâce d'avoir l'odeur de rose, et Marcel Amon, que j'ai eu la chance, qui a fait la première partie d'Edith Piaf, qui nous a quittés aussi il y a quelques mois, me disait, en coulisses, quand on la voyait chanter La vie en rose, qui aurait pu être une chanson pour Midinette, elle devenait la madone des douleurs, et ça en donnait une prière. Alors, il y a bien sûr La vie en rose que l'on chante avec le public, hein, lorsque j'évoque l'odeur de rose. Il y a aussi d'autres chansons, il y a Plus bleu que le bleu de tes yeux, quand on évoque la guérison des yeux bleus d'Edith, une chanson écrite par Charles Aznavour. Et puis il y a Non, je ne regrette rien, parce que là aussi c'est un peu la foi, ne pas regarder en arrière, ne pas regretter le passé. Alors voilà, il y a de quelques chansons, enfin des chansons connues, et puis d'autres un peu moins connues, et puis aussi des documents qui seront projetés, et qui sont des documents inédits que j'ai eu la chance d'avoir par des amis d'Edith Piaf.
Je faisais référence tout à l'heure au film très récent consacré à Aznavour, où l'acteur fait une performance en imitant la voix de Charles Aznavour, on s'y croit vraiment. Faut-il s'attendre à la même chose avec Yamina, ou est-ce qu'elle a une interprétation beaucoup plus personnelle?
Alors elle a une interprétation plus personnelle, elle est d'origine kabyle comme Piaf, Piaf avait des origines kabyles, alors elle a une énergie absolument incroyable sur scène, elle a une façon de revisiter Piaf, mais une façon très originale. Voilà, je voulais pas de copier-coller, parce que parfois on entend des voix qui veulent avoir un vibrato, et voilà, mais j'ai trouvé autre chose, et les gens sont conquis, voilà, généralement on a beaucoup de rappels à la fin du spectacle.
Un accompagnement très sobre également à l'accordéon, un bel instrument qui trouvera là toute sa place et qui mettra en relief le chant et les textes.
Mais oui, alors j'ai la chance de travailler avec Thierry Bretonnet, qui m'avait déjà accompagné sur un spectacle avec Michael Lonsdale, Charles Péguy, Entre ciel et terre. Et alors, c'est extraordinaire, parce que c'est un grand accordéoniste. Il a notamment accompagné Laurent Voulzy dans la tournée des cathédrales. Et Thierry a un talent fou. Il peut devenir un vrai orchestre, comme il devient le son de la rue. Enfin, c'est extraordinaire. Je n'en dis pas plus. Mais il habille de son instrument les chansons d'Edith. Et parfois, notamment, elle chante à un moment donné « Johnny, tu n'es pas un ange ». Et on a l'impression qu'il y a tout un orchestre derrière Yamina.
Vous devancez mes questions, Pierre. Effectivement, ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez au côté spirituel des gens, entre autres avec Charles Péguy, vous l'avez mentionné. Et vous avez eu la chance de travailler avec ce grand acteur qui était Michael Lonsdale. Racontez-nous.
Oui, ça c'est un grand bonheur de comédien, puisque en 2012, j'avais fait un spectacle avec Marie-Christine Barrault et Michael Lonsdale qui s'appelait Nos voix pour Jeanne à Orléans, pour le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Donc c'était Jeanne d'Arc par la voix des poètes. Et puis en 2014, en lisant le texte La nuit de Charles Péguy, donc 2014 correspondait au centenaire de la mort de Charles Péguy, j'ai entendu de mon oreille interne la voix de Michael. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit « Michael, est-ce que tu serais d'accord pour rendre hommage à Charles Péguy ?» Le spectacle s'était appelé « Entre ciel et terre, Péguy ». Et nous sommes restés 4 ans à l'affiche du Poche Montparnasse à Paris et en tournée avec nous Thierry, qui faisait des choses merveilleuses avec son accordéon magique. Voilà.
Alors revenons à cette pièce Piaf, un cri vers Dieu, qui va se jouer ce dimanche 2 mars à 15h au Breuil-Magnier. Philippe, qu'est-ce qui vous a donné envie de la présenter dans le cadre du festival qui jusqu'ici était plutôt orienté film ou documentaire ?
Alors c'est vrai que jusqu'à présent, Dimitri, le festival s'attachait vraiment à organiser des ciné-conférences. Et puis, l'expérience faisant, on est en contact avec de plus en plus de personnes, notamment dans le cadre de cette pièce de théâtre avec M. Vianney Malin, qui est responsable de l'espace Bernanos à Paris. Donc régulièrement, nous échangeons sur les spectacles qu'il peut programmer. Et c'est lui donc qui, pour la première fois, m'a parlé de cette pièce, Piaf, un cri vers Dieu. Et évidemment, dès qu'on évoque le nom de Piaf, tout de suite, ça interpelle. La grande chanteuse que tout le monde aime, parce que ce qui caractérise Piaf déjà, c'est qu'elle est vraiment intergénérationnelle. Les plus âgés, mais aussi les plus jeunes, sont touchés par ses chansons. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Ensuite, j'ai lu le livre de Pierre Fesquet. Enfin, je dirais plutôt que je l'ai dévoré, puisque je l'ai lu d'une traite quasiment. Et ça m'a vraiment beaucoup frappé. Je ne connaissais pas plus que ça, la vie de Piaf. Et ce qui m'a réellement frappé dans cet ouvrage, dans cette biographie, c'est que Piaf, pendant très longtemps, elle était de ces populations qu'on montre du doigt, qu'on dénonce. Elle est toute petite, elle avait une vie de saltimbanque. Alors les saltimbanques, c'est un peu des gens dont on se méfie, parce qu'ils sont de nulle part, ils vivent au jour le jour. Et puis alors après, bien sûr, c'est l'apothéose, puisqu'elle grandit dans une maison close. Ça veut dire que toutes ces petites mamans, ce sont des prostituées.
Oui, elles les accumulent, quoi.
Voilà, on imagine qu'elles voient passer des clients. Alors, tous ne sont peut-être pas très recommandables, je ne sais pas. Et elle vit, en fait, dans ces populations qui souvent sont dénoncées, montrées du doigt. Et je me suis dit quand même, peut-être que dans cette situation, elle aurait pu en vouloir à Dieu. d'être de ces populations qui sont jugées, un peu condamnées. Eh bien non, on découvre qu'au contraire, c'est la foi qui l'a portée. Mais je me dis que dans cette situation-là, ce n'est pas une foi ordinaire, c'est une foi immense qu'il faut avoir. Et donc ça, ça nous a vraiment tous interpellés dans l'équipe du festival pour dire oui, il faut y aller. Et à partir de là, on a établi les contacts. Mais ça a été très vite une évidence qu'il fallait qu'on puisse avoir cette pièce ici, chez nous, en Pays Rochefortais.
Alors le livre, Pierre, vous l'avez dit, est paru en 2023. La pièce, depuis, a fait son chemin. Oui. Vous aviez l'idée d'en faire une pièce à l'origine ?
Oui, eh bien, exactement comme Charles Péguy, Entre ciel et terre. Ça avait commencé par un livre avec Michael, et qui a été ensuite adapté sur scène. Et pour Piaf, c'est pareil. En écrivant le livre, bon, il y a des dialogues, il y a des... Je pense que c'est ce qui touche aussi le lecteur, c'est que le style est très vivant. Enfin, je le dis sans me passer de pommade, hein, très, très humblement. Et je voulais l'écrire pour l'adapter ensuite sur scène. Alors, on a eu le grand bonheur de le créer à l'Espace Bernanos à Paris. Et c'est quand on a vu qu'on refusait du monde, Vianney Malin dirige cet Espace Bernanos, on s'est dit, ben, on pourrait le proposer dans d'autres régions. Et nous l'avons donné, là, il y a quelques temps à Paris. On a fait un showcase, comme on dit en bon français, et on espère pouvoir qu'il soit à l'affiche d'un théâtre à Paris. C'est sur la bonne voie. Nous allons le donner aussi à Orléans. Et puis, nous sommes très, très heureux de le donner dans cette très belle région.
Évidemment, le thème, là, on est autour du spirituel, mais c'est un spectacle pour tout le monde. Enfin, je veux dire, même ceux qui connaissent Piaf de façon plus basique sont les bienvenus.
Ah, je vais même vous dire, on a eu des jeunes qui étaient en larmes à l'Espace Bernanos, donc des enfants qui étaient venus à partir de 12 ans. Et voilà, et je sais qu'il y a elle avait une jeune fille de 16 ans qui est venue me voir en larmes en me disant, mais quelle vie magnifique, quelle vie donnée. Puisque, je peux le dire, hein, les dernières paroles d'Edith Piaf entendues par son entourage avant de mourir le 10 octobre 1963, c'était « Cher petit Jésus ». Elle est morte en disant ces paroles, et puis il y a cette chanson « Mea culpa », elle dit que ceux qui n'ont jamais péché me jettent la première pierre, que ceux qui n'ont jamais aimé me refusent une prière. Alors voilà, elle est partie comme ça, c'est un peu la Marie-Madeleine de l'Évangile.
Est-ce que c'est compliqué par rapport au droit d'auteur ? Vous avez dit qu'il y avait également des documents filmés, etc. Est-ce que tout ça, c'est compliqué à mettre en place afin de monter une pièce de théâtre comme celle-ci ?
Oui, bah, il faut signer des choses avec les ayants droit qui remettent des documents. Ça s'est merveilleusement bien passé parce que l'entourage d'Edith Piaf, alors elle a plus beaucoup de famille, mais était très heureux que cette perspective, cet axe spirituel soit mis en relief. J'étais au téléphone l'autre jour avec Jacqueline Boyer, qui est la fille de Jacques Pils. Jacques Pils s'est marié avec Edith Piaf. Ça a été le premier mariage religieux, donc il avait déjà cette fille, et Jacqueline me disait qu'elle priait, elle, avec Edith, au pied de la statue de Thérèse de Lisieux, et qu'elle s'abîmait dans la prière, qu'elle n'était même plus de ce monde. Et donc, tous ces témoignages donnent beaucoup de vie à notre spectacle.
Alors Pierre Fesquet, en tant qu'écrivain, je pense qu'on doit se sentir relativement libre d'écrire ce que l'on veut. En revanche, quand il s'agit de transcrire ça en pièce de théâtre, on vous a demandé de regarder avant pour valider des choses ou pas ?
Oui, les ayants droit, la famille m'ont laissé totalement libre, hein, dans la création scénique. Pour moi, le plus difficile, c'est de... Voilà, on ne peut pas tout raconter. Alors, il faut évoquer le livre, il faut le traverser. Hein, je ne peux pas... Mais je crois qu'on a trouvé un très bon rythme entre documents projetés. Il y a quelques documents projetés. Il y a de très belles photos qui sont diffusées pendant le spectacle. Et puis, on alterne entre mon récit et les chansons de Yamina. Je crois qu'on a trouvé un très bon rythme et que le public est touché.
Pierre Fesquet, on aura l'occasion, je vois que le temps tourne, mais on aura quand même un peu de temps pour écouter une chanson relativement peu connue d'Edith Piaf en fin d'émission. Je me tourne vers Philippe Bocchi. Après donc cette pièce Piaf, un cri vers Dieu, dimanche 2 mars, vers quoi s'oriente le festival ?
Alors, donc, le 2 mars, bien sûr, hein, on se retrouve à la très belle salle spectacle de Breuil-Magnier. Je dis un petit mot, Dimitri, sur cette salle de spectacle, parce qu'elle est vraiment très belle. Elle vient de faire l'objet d'une restauration avec des fauteuils neufs. Donc, on va être vraiment très bien installé. Elle est toute en gradin, donc c'est vraiment un très bel espace. Et on a la chance d'avoir, bah, voilà, cette possibilité, hein, de représenter cette pièce à cet endroit. Ensuite, nous aurons le quatrième et dernier événement de notre saison 2024-2025. Ça sera le 5 juillet, et là, pour un dîner ciné en extérieur à Port des Barques. Donc, le festival, voilà, c'est un peu comme les Gaulois d'Astérix et Obélisque. Tout se termine par un grand repas convivial. Donc, ça sera le cas. Ça sera sur la cité sanctuaire de Port des Barques, face à l'île Madame. Et puis, nous aurons donc ce dîner et ensuite la projection d'un nouveau documentaire qui est inédit, dont le titre est « Les martyrs de l'île » et qui raconte justement notre histoire locale avec les prêtres martyrs de l'île Madame. Le documentaire a été créé par Sébastien Cassène, qui habite à Sainte. Donc, vous voyez, c'est vraiment un réalisateur de Charente-Maritime qui raconte notre histoire locale. Et bien sûr, il sera avec nous pour participer, pour partager ce beau repas, mais aussi pour nous parler de son documentaire et de son métier.
Pierre Fesquet, vous connaissez un peu les alentours de La Rochelle ?
Mais pas beaucoup. Je me suis rendu une fois pour un spectacle à La Rochelle et je me souviens que j'avais vu un aquarium magnifique, mais je suis très heureux de revenir dans la région.
Alors, il est prévu à l'issue de la représentation qui dure quoi, une heure et demie à peu près ?
Oui, 1h20, oui, tout à fait.
1h20, vous avez prévu une séance de dédicace pour ceux qui souhaiteraient...
Oui, j'aurai le grand bonheur de dédicacer mon livre « Piaf, un cri vers Dieu » et puis le dernier livre qui s'appelle « Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme » qui est la même, voilà, j'ai revisité avec les fils de Charles Aznavour ont été merveilleux parce que c'est pareil, on m'a ouvert des documents uniques, j'ai revisité, j'ai pris l'axe spirituel dans l'œuvre et la vie de Charles Aznavour qui lui était de religion grégorienne, de la religion apostolique arménienne. Alors c'est passionnant parce que c'est la plus vieille religion chrétienne au monde. Alors ça a été passionnant à la fois de revisiter l'œuvre d'Aznavour et puis cette religion que je connaissais mal.
Est-ce que vous avez trouvé des correspondances avec le film Monsieur Aznavour ?
Oui, il y a quelques correspondances, absolument. Voilà. Mais c'est surprise, je n'en dis pas plus pour le lecteur.
Philippe ?
Oui, encore un petit mot, Dimitri, sur le festival. Donc, au départ, hein, notre festival s'appelait Festival chrétien du cinéma en Pyrochefortais. On focalisait vraiment sur des ciné-conférences. Maintenant, nous nous appelons donc Festival chrétien du pays Rochefortais avec cette ouverture sur toutes les formes de création artistique chrétienne. Et pour nous, ce rendez-vous aussi, c'est un beau challenge, c'est un beau défi parce que pour la première fois, nous abordons le spectacle vivant avec une pièce de théâtre. Donc, on en est vraiment très, très heureux et on est plein d'espérance pour cette belle représentation. Et je suis sûr que Pierre Fesquet, Yamina Abdous et Thierry Bretonnet vont nous faire un superbe spectacle. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, parce que c'est là aussi au cœur de notre engagement, c'est que le pays Rochefortais, nous sommes en zone plutôt rurale. Avec mon épouse, nous étions pendant de très longues années en région parisienne. Eh bien, dans une région rurale comme le pays Rochefortais, nous n'avons pas vocation, peut-être, à être une zone culturelle de deuxième, voire troisième importance, mais que tout ce qui se fait, et tout ce qui se fait de plus beau, de mieux, a vocation à venir aussi chez nous. C'est important pour nous, pour les festivaliers, et puis c'est aussi très important, Pierre Fesquet pourra sans doute dire un mot là-dessus, pour les créateurs. C'est-à-dire que si on n'est pas là pour produire et permettre la représentation de tout ce qui est créé, forcément ça va être difficile pour eux aussi et on a besoin d'eux. Donc le festival vraiment maintenant s'ouvre à toutes les formes d'art et je souhaite vraiment qu'on soit vraiment au rendez-vous des belles créations.
Appuyer les paroles de Philippe, et je crois que c'était le grand vœu aussi de Michael Lonsdal de témoigner de la spiritualité par l'art, et vous nous donnez un tremplin merveilleux en produisant ce spectacle le 2 mars, et on est très 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 heureux. Oui, ça sera lumineux, rythmé, et un magnifique partage avec le public.
Donc je le redis encore une fois, ce dimanche 2 mars à 15h, salle théâtrale et culturelle de Breuil-Magné, suivi donc d'une dédicace et d'un verre de l'amitié. Le tarif plein, on peut dire, c'est 18 euros. Tarif réduit qui s'adresse à qui ?
Alors le tarif réduit concerne donc les personnes de moins de 18 ans, les personnes qui sont porteuses d'handicap et également, voilà, nous savons que nos prêtres et toutes les personnes consacrées ont des tout petits salaires, des tout petits moyens, donc on leur a aussi réservé ce tarif réduit de 12 euros. Les réservations sont possibles auprès des offices de tourisme de Rochefort et de Fouras, donc soit sur leur site internet, soit directement à leur bureau d'accueil.
Il est conseillé de réserver, mais si nous prenait une envie subite de se déplacer dimanche à 15h au Breuil-Magné, on peut.
Autant qu'on a de la place, absolument.
Très bien, merci en tout cas à vous deux. Pierre Fesquet, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre et de cette pièce de théâtre. Piaf, un cri vers Dieu, et que Philippe, vous êtes le responsable, on va dire, du festival.
Le président, voilà, le président du festival.
Merci à vous deux, et on se quitte avec un morceau que je vous laisse choisir, Pierre.
Eh bien, écoutez, peut-être le ciel est fermé.
Allons-y pour le ciel est fermé. Merci encore à vous deux, et très bon spectacle dimanche.
Merci Dimitri.
Merci Dimitri.
Merci Philippe.
À bientôt, Pierre.
À bientôt.
Fatigué des gens de la terre, le bon Dieu qui est surmené réfléchit entre deux mystères et décida de démissionner. Il éteignit quelques étoiles, ferma le ciel de haut en bas et d'un nuage fit une voile qui prit le vent et qui l'emporta. Et voilà le soleil de travers, tous les hommes qui marchent la tête en bas, et la terre qui s'enroule à l'envers, et la mer qui s'embête et s'en va. Mais les prières, continuent à monter, car tous les hommes, qu'elles sont bien embêtées, les prières qui n'ont rien demandé, et c'est là qu'on les voit faire la queue, les prières qui attendent le bon Dieu. Alors comme elles n'ont rien à faire, les prières, elles se font des confidences. Vous venez pourquoi, vous? Moi, je viens de la part d'un dénommé Roméo et d'une certaine Juliette. Qu'est-ce qu'on leur fait comme ennui sur cette terre? On veut pas les laisser s'aimer tranquilles, pas commode à arranger leur histoire. Et vous? Moi, pour un gars qui a de gros ennuis avec son percepteur, je vois d'ailleurs pas ce que je peux faire pour lui ici. Enfin, et vous, moi, secret professionnel. Et vous là-bas, moi, je viens de la part d'un fou. Enfin, d'un poète, c'est la même chose. D'abord, ce qu'il demande avec la terre, c'est impossible. Et puis, prêcher la bonté, ça fait démodé. Racontez-nous, c'est peut-être drôle. Si vous voulez, de toute façon, ça changera jamais rien. Alors voilà. Je sais bien que je vous dérange, mais voilà, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, prêtez-moi des anges, il en faudrait un petit peu partout. Pour le soleil, un par personne, et pour l'amour, s'il vous plaît, tout plein d'amour, on a des hommes pour qu'ils en fassent de grands bouquets. Et voilà le bon Dieu revenu, le tonnerre a perdu son emploi, le soleil est passé par-dessus, et voilà que la terre marche droit. Ouvrez les portes, que l'on porte le soleil dans les blés, que la terre, tourne enfin sans trembler. Et l'amour a poussé dans les champs, et les hommes le cueillaient en chantant. Les amants n'en mourraient plus jamais, c'est pour ça que tout le monde s'aime. Quel dommage pour les filles, les garçons, que tout ça ne soit qu'une chanson.